Chapitre 7, le vieillard, le botaniste, Monsieur Jacques. Gilbert n'avait pas voulu prendre les routes de peur d'être poursuivi. Il avait gagné, de bois en bois, une espèce de forêt dans laquelle il s'arrêta enfin. Il avait dû faire une lieue et demie à peu près en trois quarts d'heure. Le fugitif regarda tout autour de lui. Il était bien seul. Cette solitude le rassura. Il essaya de se rapprocher de la route qui devait, d'après son calcul, conduire à Paris. Mais des chevaux qu'il aperçut sortant du village de Roquencourt, menés par des livrées oranges, l'effrayèrent tellement qu'il fut guéri de la tentation d'affronter les grandes routes et se rejeta dans les bois. « Demeurons à l'ombre de ces châtaigniers, se dit Gilbert. Si l'on me cherche quelque part, ce sera sur le grand chemin. Ce soir, d'arbre en arbre, de carrefour en carrefour, je me faufilerai vers Paris. On dit que Paris est grand, je suis petit, on m'y perdra. » L'idée lui parut d'autant meilleure que le temps était beau, le bois ombreux, le sol moussu. Les rayons d'un soleil âpre et intermittent qui commençait à disparaître derrière les coteaux de Marly avaient séché les herbes et tiré de la terre ces doux parfums printaniers qui participent à la fois de la fleur et de la plante. On était arrivé à cette heure de la journée où le silence tombe plus doux et plus profond du ciel qui commence à s'assombrir, à cette heure où les fleurs, en se refermant, cachent l'insecte endormi dans leur calice. Les mouches dorées et bourdonnantes regagnent le creux des chênes qui leur sert d'asile, les oiseaux passent muets dans le feuillage, et l'on n'entend que le frôlement rapide de leurs ailes, et le seul chant qui retentisse encore est le sifflement accentué du merle et le timide ramage du rouge-gorge. Les bois étaient familiers à Gilbert, il en connaissait les bruits et les silences. Aussi, sans réfléchir plus longtemps, sans se laisser aller à des craintes puériles, se jeta-t-il sur les bruyères parsemées çà et là des feuilles rouillées de l'hiver. Bien plus, au lieu d'être inquiet, Gilbert ressentait une joie immense. Il aspirait à longs flots l'air libre et pur. Il sentait que cette fois encore il avait triomphé, en homme stoïque, de tous les pièges tendus aux faiblesses humaines. Que lui importait-il de n'avoir ni pain, ni argent, ni asile? N'avait-il pas sa chère liberté? Ne disposait-il pas de lui pleinement et entièrement? Il s'étendit donc au pied d'un châtaignier gigantesque qui lui faisait un lit moelleux entre les bras de deux grosses racines moussues, et tout en regardant le ciel qui lui souriait, il s'endormit. Le chant des oiseaux le réveilla. Il était jour à peine. En se soulevant sur son coude, brisé par le contact du bois dur, Gilbert vit le crépuscule bleuâtre s'estomper dans la triple issue d'un carrefour, tandis que çà et là, par des sentiers humides de rosée, passaient, l'oreille penchée, des lapins rapides, tandis que le daim curieux qui piétinait sur ses fuseaux d'acier s'arrêtait au milieu d'une allée pour regarder cet objet inconnu couché sous un arbre et qui lui conseillait de fuir au plus vite. Une fois debout, Gilbert sentit qu'il avait faim. Il n'avait pas voulu, on se le rappelle, dîner la veille avec Zamore, de sorte que, depuis son déjeuner dans les mansardes de Versailles, il n'avait rien pris. En se retrouvant sous les arceaux d'une forêt, lui, l'intrépide arpenteur des grands bois de la Lorraine et de la Champagne, il se crut encore sous les massifs de Tavernet ou dans les taillis de Pierrefitte, réveillé par l'aurore après un affût nocturne entrepris pour André. Mais alors il trouvait toujours près de lui quelques perdreaux surpris au rappel, quelques faisans tués aux branchers, tandis que cette fois il ne voyait à sa portée que son chapeau, déjà fort maltraité par la route et achevé par l'humidité du matin. Ce n'était donc pas un rêve qu'il avait fait, comme il l'avait cru d'abord en se réveillant. Versailles et Lucienne étaient une réalité, depuis son entrée triomphale dans l'une jusqu'à sa sortie effarouchée de l'autre. Puis ce qui le ramena tout à fait à la réalité, ce fut une faim de plus en plus croissante et par conséquent de plus en plus aiguë. Machinalement, alors, il chercha autour de lui ses mûres savoureuses, ses prunelles sauvages, ses croquantes racines de ces forêts, dont le goût, pour être plus âpre que celui de la rave, n'en est pas moins agréable aux bûcherons qui vont le matin chercher leurs outils sur l'épaule, le canton du défrichement. Mais outre que ce n'était point la saison encore, Gilbert ne reconnut autour de lui que des frênes, des ormes, des châtaigniers et ces éternels glandés qui se plaisent dans les sables. « Allons, allons, se dit Gilbert à lui-même, j'irai droit à Paris, je puis en être encore à 3 ou 4 lieues, à 5 tout au plus, c'est une route de 2 heures. Ah, qu'importe que l'on souffre 2 heures de plus quand on est sûr de ne plus souffrir après. À Paris, tout le monde a du pain, et en voyant un jeune homme honnête et laborieux, le premier artisan que je rencontrerai ne me refusera pas du pain pour du travail. » En un jour à Paris, on trouvera le repas du lendemain. Que faut-il de plus? Rien, pourvu que chaque lendemain me grandisse, m'élève et me rapproche du but que je veux atteindre. Gilbert doubla le pas, il voulait regagner la grande route, mais il avait perdu tout moyen de s'orienter. À Tavernay et dans tous les bois environnants, il connaissait l'Orient et l'Occident. Chaque rayon du soleil lui était un indice d'heure et de chemin. La nuit, chaque étoile tout inconnue qu'elle lui était sous son nom de Vénus, de Saturne ou de Lucifer, lui était un guide. Mais dans ce monde nouveau, il ne connaissait pas plus les choses que les hommes, et il fallait trouver, au milieu des uns et des autres, son chemin en tâtonnant au hasard. « Heureusement, se dit Gilbert, j'ai vu des poteaux où les routes sont indiquées. » Et il s'avança jusqu'au carrefour où il avait vu ces poteaux indicateurs. Il y en avait 3, en effet, l'un conduisait au Marais jaune, l'autre au Champ de l'Alouette, le troisième au Trou salé. Gilbert était un peu moins avancé qu'auparavant. Il courut 3 heures sans pouvoir sortir du bois, envoyé du rond du bois au carrefour des princes. La sueur ruisselait de son front, 20 fois il avait mis bas son habit et sa veste pour escalader quelques châtaigniers colossales, mais arrivé à sa cime, il n'avait vu que Versailles, tantôt à sa droite, tantôt à sa gauche, Versailles vers lequel il semblait qu'une fatalité le ramena constamment. À demi fou de rage, n'osant s'engager sur la grande route dans la conviction que Lucienne tout entier courait après lui, Gilbert, gardant toujours le centre des bois, finit par dépasser Viroflay, puis Chaville, puis Sèvres. 5h30 sonnait au château de Meudon quand il arriva au couvent des Capucins situé entre la Manufacture et Bellevue. De là, montant sur une croix, et au risque de la briser, et de se faire rouer comme Sirvaine par arrêt du Parlement, il aperçut la Seine, le bourg et la fumée des premières maisons. Mais à côté de la Seine, au milieu du bourg, devant le seuil de ces maisons, passait la grande route de Versailles, dont il avait tant d'intérêt à s'écarter. Gilbert, un instant, n'eut plus ni fatigue ni faim. Il voyait au reste à l'horizon un grand amas de maisons perdues dans la vapeur matinale. Il jugea que c'était Paris, prit sa course de ce côté-là, et ne s'arrêta que lorsqu'il sentit l'haleine près de lui manquer. Il se trouvait au milieu du bois de Meudon, entre Fleury et Plessis-Piquet. « Allons, allons, dit-il en regardant autour de lui, pas de mauvaise honte, je ne puis manquer de rencontrer quelque ouvrier matinal de ceux qui s'en vont à leur travail, un gros morceau de pain sous le bras, je lui dirai, tous les hommes sont frères et par conséquent doivent s'entraider, vous avez là plus de pain qu'il ne vous en faut, non seulement pour votre déjeuner, mais même pour tout le jour, tandis que moi, je meurs de faim, et alors il me tendra la moitié de son pain. » La faim rendait Gilbert encore plus philosophe, et il continuait ses réflexions mentales. « En effet, disait-il, tout n'est-il pas commun aux hommes sur la terre? Dieu, cette source éternelle de toutes choses, a-t-il donné à celui-ci ou à celui-là l'air qui féconde le sol ou le sol qui féconde les fruits? Non, seulement plusieurs ont usurpé. » Mais aux yeux du Seigneur, comme aux yeux des philosophes, personne ne possède. Celui qui a n'est que celui à qui Dieu a prêté. Et Gilbert ne faisait que résumer, avec une intelligence naturelle, ses idées vagues et indécises à cette époque, et que les hommes sentaient flotter dans l'air et passer au-dessus de leur tête, comme ces nuages poussés vers un seul point, et qui, en s'amoncelant, finissent par former une tempête. « Quelques-uns, reprenait Gilbert tout en suivant sa route, quelques-uns retiennent de force ce qui appartient à tous. Eh bien, à ceux-là, on peut arracher de force ce qu'ils n'ont que le droit de partager. Si mon frère, qui a trop de pain pour lui, me refuse une portion de son pain, eh bien, je la prendrai de force, imitant en cela la loi Hannibal, source de tout bon sens et de toute équité, puisqu'elle dérive de tout besoin naturel. À moins cependant que mon frère ne me dise, cette part que tu réclames est celle de ma femme et de mes enfants, ou bien je suis le plus fort et je mangerai ce pain malgré toi. Gilbert était dans ses dispositions de loup à jeun lorsqu'il arriva au milieu d'une clairière dont le centre était occupé par une mare aux eaux rousses bordée de roseaux et de nymphéas. Sur la pente herbeuse qui descendait jusqu'à l'eau, rayée en tous sens par des insectes aux longues pattes, brillaient comme un semis de turquoise de nombreuses touffes de myosotis. Le fond de ce tableau, c'est-à-dire l'anneau de la circonférence, était formé d'une haie de gros trembles. Les aunes remplissaient de leurs branchages touffus les intervalles que la nature avait mis entre les troncs argentés de leurs dominateurs. 6 allées donnaient entrée dans cette espèce de carrefour, 2 semblaient monter jusqu'au soleil qui dorait la cime des arbres lointains, tandis que les autres, divergentes comme les rayons d'une étoile, s'enfonçaient dans les profondeurs bleuâtres de la forêt. Cette espèce de salle de verdure semblait plus fraîche et plus fleurie qu'aucune autre place du bois. Gilbert y était entré par une des allées sombres. Le premier objet qu'il aperçut, lorsque, après avoir embrassé d'un coup d'œil l'horizon lointain que nous venons de décrire, il ramena son regard autour de lui, fut, dans la pénombre d'un fossé profond, le tronc d'un arbre renversé, sur lequel était assis un homme à perruque grise, d'une physionomie douce et fine, vêtu d'un habit de gros drap brun, de culotte pareille, d'un gilet de piqué gris à côtes. Ses bas de coton gris enfermaient une jambe assez bien faite et nerveuse, ses souliers à boucles, poudreux encore par place, avaient cependant été lavés au bout de la pointe par la rosée du matin. Près de cet homme, sur l'arbre renversé, était une boîte, peinte en vert, toute grande ouverte et bourrée de plantes récemment cueillies. Il tenait entre ses jambes une canne de houx, dont la pomme arrondie reluisait dans l'ombre et qui se terminait par une petite bêche de 2 pouces de large sur 3 de long. Gilbert embrassa d'un coup les différents détails que nous venons d'exposer, mais ce qu'il aperçut tout d'abord, ce fut un morceau de pain dont le vieillard cassait des bribes pour les manger. En partageant fraternellement avec les pinsons et les verdiers qui lorgnaient de loin la proie convoitée, s'abattant sur elle aussitôt qu'elle leur était livrée, et s'envolant à tire d'aile au fond de leur massif avec des pépiments joyeux. Puis, de temps en temps, le vieillard, qui les suivait de son œil doux et vif à la fois, plongeait la main dans un mouchoir à carreaux de couleur, en tirait une cerise et la savourait entre 2 bouchées de pain. « Bon, voici mon affaire, » dit Gilbert, en écartant les branches et en faisant 4 pas vers le solitaire qui sortit enfin de sa rêverie. Mais il ne fut pas au tiers du chemin que, voyant l'air doux et calme de cet homme, il s'arrêta et ôta son chapeau. Le vieillard, de son côté, s'apercevant qu'il n'était plus seul, jeta un regard rapide sur son costume et sur sa lévite. Il boutonna l'un et ferma l'autre. Gilbert prit la résolution et s'approcha tout à fait, mais il ouvrit d'abord la bouche et la referma sans avoir proféré une parole. Sa résolution chancelait. Il lui sembla qu'il demandait une aumône et non qu'il réclamait un droit. Le vieillard remarqua cette timidité et elle parut le mettre à l'aise lui-même. « Vous voulez me parler, mon ami ?» dit-il en souriant et en posant son pain sur l'arbre. « Oui, monsieur, » répondit Gilbert. « Que désirez-vous ? » ?»« Monsieur, je vois que vous jetez votre pain aux oiseaux, comme s'il n'était pas dit que Dieu les nourrit. »« Il les nourrit sans doute, jeune homme, » répondit l'étranger, « mais la main des hommes est un des moyens qu'il emploie pour parvenir à ce but. Si c'est un reproche que vous m'adressez, vous avez tort, car jamais, dans un bois désert ou dans une rue peuplée, le pain que l'on jette n'est perdu. » Là, les oiseaux l'emportent, ici, les pauvres le ramassent. Eh bien, monsieur, dit Gilbert, singulièrement ému par la voix pénétrante et douce du vieillard, bien que nous soyons ici dans un bois, je connais un homme qui disputerait votre pain aux oiseaux. Serait-ce vous, mon ami ? S'écria le vieillard, et par quel hasard auriez-vous faim ? Grande fin, monsieur, je vous le jure, et si vous le permettez. » Le vieillard saisit aussitôt le pain avec une compassion empressée. Puis, réfléchissant tout à coup, il regarda Gilbert de son œil à la fois si vif et si profond. Gilbert, en effet, ne ressemblait pas tellement à un affamé que la réflexion ne fut permise. Son habit était propre, et cependant en quelque endroit maculé par le contact de la terre. Son linge était blanc, car à Versailles, la veille, il avait tiré une chemise de son paquet, et cependant cette chemise était fripée par l'humidité. Il était donc visible que Gilbert avait passé la nuit dans le bois. Il avait surtout, et avec cela, ces mains blanches et effilées qui dénotent l'homme des vagues rêveries plutôt que l'homme des travaux matériels. Gilbert ne manquait point de tact, il comprit la défiance et l'hésitation de l'étranger à son égard, et se hâta d'aller au-devant des conjectures qu'il comprenait ne devoir point lui être favorables. « On a faim, monsieur, toutes les fois que l'on n'a point mangé depuis 12 heures, dit-il, et il y en a 24 que je n'ai rien pris. » La vérité des paroles du jeune homme se trahissait par l'émotion de sa physionomie, par le tremblement de sa voix, par la pâleur de son visage. Le vieillard cessa donc d'hésiter, ou plutôt de craindre, il tendit à la fois son pain et le mouchoir d'où il tirait ses cerises. « Merci, monsieur, » dit Gilbert en repoussant doucement le mouchoir. « Merci, rien que du pain, c'est assez. » Et il rompit en deux le morceau dont il prit la moitié et rendit l'autre. Puis il s'assit sur l'herbe à 3 pas du vieillard qui le regardait avec un étonnement croissant. Le repas dura peu de temps. Il y avait peu de pain et Gilbert avait grand appétit. Le vieillard ne le troubla par aucune parole. Il continua son muet examen, mais furtivement, et en donnant, en apparence du moins, la plus grande attention aux plantes et aux fleurs de sa boîte, qui, se redressant comme pour respirer, relevaient leur tête odorante au niveau du couvercle de fer blanc. Cependant, voyant Gilbert s'approcher de la mare, il s'écria vivement « Ne buvez pas de cette eau, jeune homme, elle est infectée par les détritus des plantes mortes l'an dernier et par les œufs des grenouilles qui nagent à sa superficie. » Prenez plutôt quelques cerises, elles vous rafraîchiront aussi bien que de l'eau. Prenez, je vous y invite, car vous n'êtes point, je le vois, un convive importun. C'est vrai, monsieur, l'importunité est tout l'opposé de ma nature, et je ne crains rien tant que d'être importun. Je viens de le prouver tout à l'heure encore à Versailles. Ah, vous venez de Versailles? Dit l'étranger en regardant Gilbert. Oui, monsieur, répondit le jeune homme. « C'est une ville riche. Il faut être bien pauvre ou bien fier pour y mourir de faim. Je suis l'un et l'autre, monsieur. Vous avez eu une querelle avec votre maître ?» demanda timidement l'étranger, qui poursuivait Gilbert de son regard interrogateur tout en rangeant ses plantes dans sa boîte. « Je n'ai pas de maître, monsieur. » « Mon ami, dit l'étranger en se couvrant la tête, voici une réponse trop ambitieuse. Elle est exacte cependant. » Non, jeune homme, car chacun a son maître ici-bas, et ce n'est pas entendre justement la fierté que de dire « je n'ai pas de maître ». Comment ? Eh, mon Dieu, oui, vieux ou jeune, tous tant que nous sommes, nous subissons la loi d'un pouvoir dominateur. Les uns sont régis par les hommes, les autres par les principes, et les maîtres les plus sévères ne sont pas toujours ceux qui ordonnent ou frappent avec la main ou la voix humaine. Soit, dit Gilbert, alors je suis régi par des principes, j'avoue cela, les principes sont les seuls maîtres qu'un esprit pensant puisse avouer sans honte. Et quels sont vos principes? Voyons, vous me paraissez bien jeune, mon ami, pour avoir des principes arrêtés. Monsieur, je sais que les hommes sont frères, que chaque homme contracte en naissant une somme d'obligations relatives envers ses frères. Je sais que Dieu a mis en moi une valeur quelconque, si minime qu'elle soit, et que, comme je reconnais la valeur des autres, j'ai le droit d'exiger des autres qu'ils reconnaissent la mienne, si toutefois je ne l'exagère point. Tant que je ne fais rien d'injuste ni de déshonorant, j'ai donc droit à une portion d'estime, ne fût-ce que par ma qualité d'homme. « Ah, fit l'étranger, vous avez étudié ?» Non, monsieur, malheureusement, j'ai seulement lu le discours sur l'inégalité des conditions et le contrat social. De ces deux livres viennent toutes les choses que je sais et peut-être tous les rêves que je fais. À ces mots du jeune homme, un feu éclatant brilla dans les yeux de l'étranger. Il fit un mouvement qui faillit briser une xéranthème aux brillantes folioles, rebelle à se ranger sous les parois concaves de sa boîte. « Et tels sont les principes que vous professez ?»« Ce ne sont peut-être pas les vôtres, » répondit le jeune homme, « mais ce sont ceux de Jean-Jacques Rousseau. » Seulement, fit l'étranger avec une défiance trop prononcée pour qu'elle ne fût pas humiliante à l'amour-propre de Gilbert, seulement, les avez-vous bien compris? Mais, dit Gilbert, je comprends le français, je crois, surtout quand il est pur et poétique. Vous voyez bien que non, dit en souriant le vieillard, car si ce que je vous demande en ce moment n'est pas précisément poétique, c'est clair au moins. Je voulais vous demander si vos études philosophiques vous avaient mis à portée de saisir le fond de cette économie du système de... L'étranger s'arrêta presque rougissant. De Rousseau, continua le jeune homme. Oh, monsieur, je n'ai pas fait ma philosophie dans un collège, mais j'ai un instinct qui m'a révélé parmi tous les livres que j'ai lus l'excellence et l'utilité du contrat social. Aride matière pour un jeune homme, monsieur, sèche contemplation pour des rêveries de 20 ans, fleur amère et peu odorante pour une imagination de printemps, dit le vieil étranger avec une douceur triste. Le malheur mûrit l'homme avant la saison, monsieur, dit Gilbert, et quant à la rêverie, si on la laisse aller à sa pente naturelle, bien souvent elle conduit au mal. L'étranger ouvrit ses yeux à demi fermés par un recueillement qui lui était habituel dans ses moments de calme et qui donnait un certain charme à sa physionomie. « À qui faites-vous allusion ? » demanda-t-il en rougissant. « À personne, monsieur, » dit Gilbert. « Si fait, non, je vous assure. Vous me paraissez avoir étudié le philosophe de Genève. Faites-vous allusion à sa vie ?» « Je ne le connais pas, » répondit candidement Gilbert. « Vous ne le connaissez pas, » l'étranger poussa un soupir. « Allez, jeune homme, c'est une malheureuse créature. »« Impossible, Jean-Jacques Rousseau malheureux, mais il n'y aurait donc plus de justice, ni ici-bas, ni là-haut. Malheureux, l'homme qui a consacré sa vie au bonheur de l'homme. »« Allons, allons, je vois qu'en effet, vous ne le connaissez pas, mais parlons de vous, mon ami, s'il vous plaît. » « Oh, j'aimerais mieux continuer de m'éclairer sur le sujet qui nous occupe, car de moi, je ne suis rien, monsieur. Que voulez-vous que je dise ?»« Et puis, vous ne me connaissez point, et vous craignez d'être confiant avec un étranger. Oh, monsieur, que puis-je craindre de qui que ce soit au monde, et qui peut me faire plus malheureux que je ne suis ? Rappelez-vous de quelle façon je me suis présenté à vos yeux, seul, pauvre et affamé. Où alliez-vous ? J'allais à Paris. Vous êtes parisien, monsieur ? Oui, c'est-à-dire non. Ah, lequel des deux ? Demanda Gilbert en souriant. J'aime peu à mentir et je m'aperçois à chaque instant qu'il faut réfléchir avant de parler. Je suis parisien, si l'on entend par parisien l'homme qui habite Paris depuis longtemps et qui vit dans la vie parisienne, mais je ne suis pas né dans cette ville. Pourquoi cette question ? Elle se rattachait dans mon esprit à la conversation que nous venions d'avoir. Je voulais dire que, si vous habitez Paris, vous avez dû voir Monsieur Rousseau, dont nous parlions tout à l'heure. Je l'ai vu quelquefois, en effet. On le regarde quand il passe, n'est-ce pas ? On l'admire, on se le montre au doigt comme le bienfaiteur de l'humanité. Non, les enfants le suivent, et excités par leurs parents, lui jettent des pierres. « Oh mon Dieu !» fit Gilbert avec une douloureuse stupéfaction. « Tout au moins, est-il riche ?»« Il se demande parfois, comme vous le demandiez ce matin, où déjeunerai-je ? » ?»« Mais tout pauvre qu'il est, il est considéré, puissant, respecté. »« Il ne sait pas, chaque soir, lorsqu'il s'endort, s'il ne se réveillera point le lendemain à la Bastille. » Oh, comme il doit haïr les hommes. Oh, il ne les aime, il ne les hait, il en est dégoûté, voilà tout. Ne point haïr les gens qui nous maltraitent, s'écria Gilbert. Je ne comprends point cela. Rousseau a toujours été libre, monsieur. Rousseau a toujours été assez fort pour ne s'appuyer que sur lui seul, et c'est la force et la liberté qui font les hommes doux et bons. Seuls l'esclavage et la faiblesse font les méchants. Voilà pourquoi j'ai voulu demeurer libre, dit fièrement Gilbert. Je devinais ce que vous venez de m'expliquer. On est libre même en prison, mon ami, dit l'étranger. Demain, Rousseau serait à la Bastille, ce qui lui arrivera un jour ou l'autre, qu'il écrirait ou penserait tout aussi librement que dans les montagnes de la Suisse. Je n'ai jamais cru, quant à moi, que la liberté de l'homme consistât à faire ce qu'il veut, mais bien à ce qu'aucune puissance humaine ne lui fît faire ce qu'il ne veut pas. Rousseau a-t-il donc écrit ce que vous dites là, monsieur ? Je le crois, dit l'étranger. Ce n'est point dans le contrat social. Non, c'est dans une publication nouvelle qu'on appelle « Les rêveries d'un promeneur solitaire ». « Ah, monsieur, dit Gilbert, je crois que nous nous rencontrerons sur un point. »« Sur lequel ?»« Ce que tous deux nous aimons et admirons Rousseau. »« Parlez pour vous, jeune homme, vous êtes dans l'âge des illusions. »« On peut se tromper sur les choses, mais non sur les hommes. »« Hélas, vous le verrez plus tard, c'est sur les hommes surtout qu'on se trompe. »« Rousseau est peut-être un peu plus juste que les autres hommes, mais croyez-moi, il a ses défauts. » Et de fort grand. » Gilbert secoua la tête d'un air qui marquait peu de conviction. Mais malgré cette incivile démonstration, l'étranger continua de le traiter avec la même faveur. « Revenons à notre point de départ, fit l'étranger. Je disais que vous aviez quitté votre maître à Versailles. « Et moi, dit Gilbert, un peu radouci, moi qui vous ai répondu que je n'avais point de maître, j'aurais pu ajouter qu'il ne tenait qu'à moi d'en avoir un fort illustre et que je venais de refuser une condition que beaucoup d'autres eussent enviée. »« Une condition ?»« Oui, il s'agissait de servir à l'amusement de grands seigneurs désœuvrés, mais j'ai pensé qu'étant jeune, pouvant étudier et faire mon chemin, je ne devais pas perdre ce temps précieux de la jeunesse et compromettre en ma personne la dignité de l'homme. « C'est bien, dit gravement l'étranger, mais pour faire votre chemin, avez-vous un plan arrêté ? Monsieur, j'ai l'ambition d'être médecin. » Oh, belle et noble carrière dans laquelle on peut choisir entre la vraie science, modeste et martyre, et le charlatanisme effronté, doré, obèse. Si vous aimez la vérité, jeune homme, devenez médecin. Si vous aimez l'éclat, faites-vous médecin. Mais il faut beaucoup d'argent pour étudier, n'est-ce pas, monsieur ? Il en faut certainement, mais beaucoup, c'est trop dire. « Le fait est, reprit Gilbert, que Jean-Jacques Rousseau, qui sait tout, a étudié pour rien. »« Pour rien, ô jeune homme, dit le vieillard avec un triste sourire, vous appelez rien ce que Dieu a donné de plus précieux aux hommes, la candeur, la santé, le sommeil, voilà ce qu'a coûté au philosophe genevois le peu qu'il est parvenu à apprendre. »« Le peu ? Fit Gilbert, presque indigné. » « Oh, sans doute, interrogez sur lui et écoutez ce que l'on vous dira. Ah, d'abord, c'est un grand musicien. Oh, parce que le roi Louis XV a chanté avec passion « J'ai perdu mon serviteur », cela ne veut pas dire que le devin de village soit un bon opéra. Ah, c'est un grand botaniste. Voyez ces lettres dont je n'ai jamais pu me procurer que quelques pages dépareillées. Vous devez connaître cela, vous qui cueillez les plantes dans le bois. » Oh, l'on se croit botaniste et souvent l'on est achevé, on est qu'herboriste, et encore. Et qu'êtes-vous, herboriste ou botaniste ? Oh, herboriste, bien et bien ignorant en face de ces merveilles de Dieu qu'on appelle les plantes et les fleurs. Il sait le latin ? Oh, fort mal. Cependant, j'ai lu dans une gazette qu'il avait traduit un auteur ancien nommé Tacite. « Oh, parce que dans son orgueil, hélas, tout homme est orgueilleux par moments, parce que dans son orgueil il a voulu tout entreprendre, mais il le dit lui-même dans l'avertissement de son premier livre, du seul qu'il ait traduit, il entend assez mal le latin, et Tacite, qui est un rure jouteur, l'a bientôt eu lassé. Oh, non, non, jeune homme, en dépit de votre admiration, il n'y a point d'homme universel, et presque toujours, croyez-moi, on perd en profondeur ce que l'on gagne en superficie. Il n'y a si petite rivière qui ne déborde sous un orage et qui n'ait l'air d'un lac, mais essayez de lui faire porter bateau, et vous aurez bientôt touché le fond. » « Et à votre avis, Rousseau est un de ces hommes superficiels ? Oui, peut-être présente-t-il une superficie un peu plus étendue que celle des autres hommes, dit l'étranger. Voilà tout. Bien des hommes seraient heureux, à mon avis, d'arriver à une superficie semblable. Parlez-vous pour moi? Demanda l'étranger avec une bonhomie qui désarma à l'instant même Gilbert. Ah, Dieu m'en garde, s'écria ce dernier. Il m'est trop doux de causer avec vous pour que je cherche à vous désobliger. Et en quoi ma conversation vous est-elle agréable, dites, car je ne crois pas que vous veuilliez me flatter pour un morceau de pain et quelques cerises. Hein. Vous avez raison, je ne flatterai pas pour l'empire du monde, mais écoutez, vous êtes le premier qui m'ait parlé sans morgue, avec bonté, comme on parle à un jeune homme et non comme on parle à un enfant. Quoique nous ayons été en désaccord sur Rousseau, il y a derrière la mansuétude de votre esprit quelque chose d'élevé qui attire le mien. Il me semble que quand je cause avec vous, que je suis dans un riche salon dont les volets sont fermés et dont, malgré l'obscurité, je devine la richesse. Il ne tiendrait qu'à vous de laisser glisser dans votre conversation un rayon de lumière, et alors je serais ébloui. Mais vous-même, vous parlez avec une certaine recherche qui pourrait faire croire à une meilleure éducation que celle que vous avouez. C'est la première fois, monsieur, et je m'étonne moi-même des termes dans lesquels je parle. Il y en a dont je connaissais à peine la signification et dont je me sers pour les avoir entendus dire une fois. Je les avais rencontrés dans les livres que j'avais lus, mais je ne les avais pas compris. Vous avez beaucoup lu? Trop, mais je relirai. Le vieillard regarda Gilbert avec étonnement. Oui, j'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main, ou plutôt, bons et mauvais livres, j'ai tout dévoré. Oh, si j'avais eu quelqu'un pour me guider dans mes lectures, pour me dire ce que je devais oublier et ce dont je devais me souvenir. Mais pardon, monsieur, j'oublie que si votre conversation m'est précieuse, il ne doit pas en être autant de la mienne. Vous herborisiez, je vous gêne peut-être. Gilbert fit un mouvement pour se retirer, mais avec le vif désir d'être retenu. Le vieillard, dont les petits yeux gris s'étaient fixés sur lui, semblait lire jusqu'au fond de son cœur. Non pas, lui dit-il, ma boîte est presque pleine et je n'ai plus besoin que de quelques mousses. On m'a dit qu'il poussait de beaux capillaires dans ce canton. Attendez, attendez, dit Gilbert, je crois avoir vu ce que vous cherchez tout à l'heure sur une roche. Loin d'ici? Non, là, à 50 pas à peine. Et comment savez-vous que les plantes que vous avez vues sont des capillaires? Je suis né dans les bois, monsieur, et puis la fille de celui chez qui j'ai été élevé s'occupait aussi de botanique. Elle avait un herbier, et au-dessous de chaque plante, le nom de cette plante était écrit de sa main. J'ai souvent regardé ces plantes et cette écriture, et il me semble avoir vu des mousses que je connaissais, moi, sous le nom de mousse de roche, désignée sous celui de capillaire. Et vous sentez-vous du goût pour la botanique? Ah, monsieur, quand j'entendais dire par Nicole, Nicole était la femme de chambre de mademoiselle André, quand j'entendais dire que sa maîtresse cherchait inutilement quelques plantes dans les environs de Tavernay, je demandais à Nicole de tâcher de savoir la forme de cette plante. Alors, souvent, sans savoir que c'était moi qui avais fait cette demande, mademoiselle André la dessinait en 4 coups de crayon. Nicole aussitôt prenait le dessin et me le donnait. Alors je courais par les champs, par les prés et par les bois jusqu'à ce que j'eusse trouvé la plante en question. Puis quand je l'avais trouvée, je l'enlevais avec une bêche et la nuit je la transplantais au milieu de la pelouse, de sorte qu'un beau matin, en se promenant, mademoiselle André jetait un cri de joie en disant « Ah, mon Dieu, comme c'est étrange, cette plante que j'ai cherchée partout, la voilà !» Le vieillard regarda Gilbert avec plus d'attention qu'il ne l'avait fait encore, et si Gilbert, songeant à ce qu'il venait de dire, n'eût baissé les yeux en rougissant, il eût pu voir que cette attention était mêlée d'un intérêt plein de tendresse. Eh bien, lui dit-il, continuez d'étudier la botanique, jeune homme. La botanique vous conduira par le plus court chemin à la médecine. Dieu n'a rien fait d'inutile, croyez-moi, et chaque plante aura un jour sa signification au livre de la science. Apprenez d'abord à connaître les simples, ensuite vous apprendrez quelles sont leurs propriétés. Il y a des écoles à Paris, n'est-ce pas? Et même des écoles gratuites. L'école de chirurgie, par exemple, est un des bienfaits du règne présent. Je suivrai ses cours. Rien de plus facile, car vos parents, je le présume, voyant vos dispositions, vous fourniront bien une pension alimentaire. Je n'ai pas de parents, mais soyez tranquille, avec mon travail, je me nourrirai. Certainement, et puisque vous avez lu les ouvrages de Rousseau, vous avez dû voir que tout homme, fût-il le fils d'un prince, doit apprendre un métier manuel. Je n'ai pas lu l'Émile, car je crois que c'est dans l'Émile que se trouve cette recommandation, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai entendu monsieur de Tavernet qui se raillait de cette maxime et qui regrettait de n'avoir pas fait son fils menuisier. Et qu'en a-t-il fait? Demanda l'étranger. Un officier, dit Gilbert. Le vieillard sourit. Oui, ils sont tous ainsi, ces nobles. Au lieu d'apprendre à leurs enfants le métier qui fait vivre, ils leur apprennent le métier qui fait mourir. Aussi viennent une révolution, et à la suite de la révolution, l'exil, ils seront obligés de mendier à l'étranger ou de vendre leur épée, ce qui est bien pis encore. Mais vous qui n'êtes pas fils de noble, vous avez un état, je présume. Monsieur, je vous l'ai dit, je ne sais rien. D'ailleurs, je vous l'avouerai, j'ai une horreur invincible pour toute besogne imprimant au corps des mouvements rudes et brutaux. Ah, dit le vieillard, vous êtes paresseux alors. Oh non, je ne suis pas paresseux, car au lieu de me faire travailler à quelque œuvre de force, donnez-moi des livres, donnez-moi un cabinet à demi noir, et vous verrez si mes jours et mes nuits ne se consument pas dans le genre de travail que j'aurais choisi. L'étranger regarda les mains douces et blanches du jeune homme. C'est une prédisposition, dit-il, un instinct. Ces sortes de répugnances aboutissent parfois à de bons résultats, mais il faut qu'elles soient bien dirigées. Enfin, continua-t-il, si vous n'avez pas été au collège, vous avez été du moins à l'école. Gilbert secoua la tête. Vous savez lire, écrire. Ma mère, avant de mourir, avait eu le temps de m'apprendre à lire, pauvre mère, car me voyant frêle de corps, elle disait toujours, ah, ça ne fera jamais un bon ouvrier, il faudra en faire un prêtre ou un savant. Quand j'avais quelque répugnance à écouter ses leçons, elle me disait, apprends à lire, Gilbert, et tu ne fendras pas de bois, tu ne conduiras pas la charrue, et tu ne tailleras pas les pierres. Et j'apprenais. Malheureusement, je savais à peine lire lorsque ma mère mourut. Et qui vous a appris à écrire? Moi-même. Vous-même? Oui, avec un bâton que j'aiguisais et du sable que je faisais passer au tamis pour qu'il fût plus fin. Pendant 2 ans, j'écrivis comme on imprime, copiant dans un livre et ignorant qu'il y eût d'autres caractères que ceux que j'étais parvenu à imiter avec assez de bonheur. Enfin, un jour, il y a 3 ans à peu près, Mademoiselle André était partie pour le couvent. On n'en avait plus de nouvelles depuis quelques jours quand le facteur me remit une lettre d'elle pour son père. Je vis alors qu'il existait d'autres caractères que les caractères imprimés. Monsieur de Tavernet brisa le cachet et jeta l'enveloppe. Cette enveloppe, je la ramassai précieusement et je l'emportai. Puis, la première fois que revint le facteur, je me fis lire l'adresse. Elle était conçue en ces termes. À monsieur le baron de Tavernet Maison Rouge, en son château à Pierrefitte. Sur chacune de ces lettres, je mis la lettre correspondante en caractère imprimé, et je vis que, sauf 3, toutes les lettres de l'alphabet étaient contenues dans ces 2 lignes. Puis j'imitai les lettres tracées par mademoiselle André. Au bout de 8 jours, j'avais reproduit cette adresse 10 000 fois peut-être, et je savais écrire. J'écris donc passablement, et même plutôt bien que mal. Vous voyez, monsieur, que mes espérances ne sont pas exagérées, puisque je sais écrire, puisque j'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main, puisque j'ai essayé de réfléchir sur tout ce que j'ai lu. Pourquoi ne trouverais-je point un homme qui ait besoin de ma plume, un aveugle qui ait besoin de mes yeux, ou un muet qui ait besoin de ma langue? Vous oubliez alors que vous auriez un maître, vous qui n'en voulez pas avoir. Un secrétaire ou un lecteur sont des domestiques de second ordre et pas autre chose. C'est vrai, murmura Gilbert en pâlissant, mais n'importe, il faut que j'arrive. Je remuerai les pavés de Paris, je porterai de l'eau s'il le faut, mais j'arriverai ou je mourrai en route, et alors mon but sera atteint de même. Allons, allons, dit l'étranger, vous me paraissez être en effet plein de bonne volonté et de courage. Mais vous-même, voyons, dit Gilbert, vous-même, si bon pour moi, n'exercez-vous pas une profession quelconque? Vous êtes vêtu comme un homme de finance. Le vieillard sourit de son sourire doux et mélancolique. J'ai une profession, dit-il, oui, c'est vrai, car tout homme doit en avoir une, mais elle est entièrement étrangère aux choses de finance. Un financier n'herboristerait point. Herborisez-vous par état? Presque. Alors, vous êtes pauvre? Oui. Ce sont les pauvres qui donnent, car la pauvreté les a rendus sages, et un bon conseil vaut mieux qu'un louis d'or. Donnez-moi donc un conseil. Je ferai mieux, peut-être. Gilbert sourit. Je m'en doutais, dit-il. Combien croyez-vous qu'il vous faille pour vivre? Oh, bien peu. Peut-être ne connaissez-vous point Paris. C'est la première fois que je l'ai aperçu, hier, des hauteurs de Lucienne. Alors, vous ignorez qu'il en coûte cher pour vivre dans la grande ville. Combien à peu près, établissez-moi une proportion. Volontiers, tenez par exemple ce qui coûte un sou en province, coûte 3 sous à Paris. Eh bien, dit Gilbert, en supposant un abri quelconque où je puisse me reposer après avoir travaillé, il me faut, pour la vie matérielle, 6 sous par jour, à peu près. Bien, bien, mon ami, s'écria l'étranger, voilà comme j'aime l'homme. Venez avec moi à Paris, je vous trouverai une profession indépendante à l'aide de laquelle vous vivrez. Ah, monsieur, s'écria Gilbert, ivre de joie, et puis, se reprenant, il est bien entendu que je travaillerai réellement, et que ce n'est point une aumône que vous me faites. Non pas, oh, soyez tranquille, mon enfant, je ne suis pas assez riche pour faire l'aumône, et pas assez fou surtout pour la faire au hasard. À la bonne heure, dit Gilbert, que cette boutade misanthropique mettait à l'aise au lieu de le blesser. Voilà un langage que j'aime, j'accepte votre offre, et je vous en remercie. C'est donc convenu que vous venez à Paris avec moi. Oui, monsieur, si vous le voulez bien. Je le veux, puisque je vous l'offre. À quoi serais-je tenu envers vous? À rien qu'à travailler. Et encore, c'est vous qui réglerez votre travail. Vous aurez le droit d'être jeune, le droit d'être heureux, le droit d'être libre, et même le droit d'être oisif, quand vous aurez gagné vos loisirs, dit l'étranger, en souriant comme malgré lui. Puis, levant les yeux au ciel, « Ô jeunesse, ô vigueur, ô liberté » ajouta-t-il avec un soupir. Et à ces mots, une mélancolie d'une poésie inexprimable se répandit sur ses traits fins et purs. Puis il se leva, s'appuyant sur son bâton, « Et maintenant, dit-il plus gaiement, maintenant que vous avez une condition, vous plaît-il que nous remplissions une seconde boîte de plantes? J'ai ici des feuilles de papier gris sur lesquelles nous classerons la première récolte. Mais à propos, avez-vous encore faim? Il me reste du pain. Gardons-le pour l'après-midi, s'il vous plaît, monsieur. Tout au moins mangez les cerises, elles nous embarrasseraient. Comme cela, je veux bien, mais permettez que je porte votre boîte. Vous marcherez plus à l'aise, et je crois, grâce à l'habitude, que mes jambes lasseraient les vôtres. Mais tenez, vous me portez bonheur. Je crois voir là-bas le Vitris hieracioides que je cherche inutilement depuis le matin. Et sous vos pieds, prenez garde, le Cerastium aquaticum. Attendez, attendez, n'arrachez pas. Vous n'êtes pas encore herboriste, mon jeune ami. L'une est trop humide en ce moment pour être cueillie, l'autre n'est point assez avancée. En repassant ce soir à 3 heures, nous arracherons le Vitris hieracioides. Quant à ce Cerastrium, nous le prendrons dans 8 jours. D'ailleurs, je veux le montrer sur pied à un savant de mes amis dont je compte solliciter pour vous la protection. Et maintenant, venez, conduisez-moi à cet endroit dont vous me parliez tout à l'heure et où vous avez vu de beaux capillaires. Gilbert marcha devant sa nouvelle connaissance, le vieillard le suivit, et tous deux disparurent dans la forêt. Gilbert, enchanté de cette bonne fortune, qui, dans ses moments désespérés, lui faisait toujours trouver un soutien, Gilbert, disons-nous, marchait devant, se retournant de temps en temps vers l'homme étrange qui venait de le rendre si souple et si docile avec si peu de mots. Il le conduisit ainsi vers ses mousses, qui étaient en effet de magnifiques capillaires. Puis, lorsque le vieillard eut fait sa collection, ils se mirent en quête de plantes nouvelles. Gilbert était beaucoup plus avancé en botanique qu'il ne le croyait lui-même. Né au milieu des bois, il connaissait, comme des amis d'enfance, toutes les plantes des bois. Seulement, il les connaissait sous leur nom vulgaire. À mesure qu'il les désignait ainsi, son compagnon les lui indiquait, lui, sous leur nom scientifique, que Gilbert, en retrouvant une plante de la même famille, essayait de répéter. Deux ou trois fois, il estropiait ce nom grec ou latin. Alors, l'étranger le lui décomposait, lui montrait les rapports du sujet avec ses mots décomposés, et Gilbert apprenait ainsi non seulement le nom de la plante, mais encore la signification du mot grec ou latin dont Pline, Linné ou Jussieu avaient baptisé cette plante. De temps en temps, il disait « Ah, quel malheur, monsieur, que je ne puisse pas gagner mes 6 sous à faire ainsi de la botanique toute la journée avec vous. Je vous jure que je ne me reposerai pas un seul instant. Et même il ne me faudrait pas 6 sous. Un morceau de pain comme celui que vous aviez ce matin suffirait à mon appétit de toute la journée. Je viens de boire à une source de l'eau aussi bonne qu'à Tavernet, et la nuit dernière, au pied de l'arbre où j'ai couché, j'ai mieux dormi que je ne l'eusse fait sous le toit d'un bon château. » L'étranger souriait. « Mon ami, disait-il, l'hiver viendra, les plantes sécheront, la source sera glacée, le vent sifflera dans les arbres dépouillés au lieu de cette douce brise qui agite si mollement les feuilles. Alors il vous faudra un abri, des vêtements, du feu, et sur vos 6 sous par jour, vous n'auriez pu économiser une chambre, du bois et des habits. » Gilbert soupirait, cueillait de nouvelles plantes et faisait de nouvelles questions. Ils coururent ainsi une bonne partie du jour dans les bois d'Aunay, de Plessis-Piquet et de Clamart-sous-Meudon. Gilbert, selon son habitude, s'était déjà mis avec son compagnon sur le pied de la familiarité. De son côté, le vieillard questionnait avec une admirable adresse. Cependant, Gilbert, défiant, circonspect, craintif, se révélait le moins possible. À Châtillon, l'étranger acheta du pain et du lait, dont il fit sans peine accepter la moitié à son compagnon. Puis tous deux prirent le chemin de Paris, afin que Gilbert, de jour encore, ne pût entrer dans la ville. Le cœur du jeune homme battait à cette seule idée d'être à Paris, et il ne chercha point à cacher son émotion lorsque, des hauteurs de Vanves, il aperçut Sainte-Geneviève, les Invalides, Notre-Dame et cette mer immense de maisons dont les flots épars vont comme une marée battre les flancs de Montmartre, de Belleville et de Ménilmontant. « Oh, Paris, Paris » murmura-t-il. « Oui, Paris, un amas de maisons, un gouffre de mots, » dit le vieillard. « Sur chacune des pierres qu'il y a là-bas, vous verriez sourdre une larme ou rougir une goutte de sang si les douleurs que ces murs renferment pouvaient apparaître au dehors. » Gilbert réprima son enthousiasme. D'ailleurs, son enthousiasme tomba bientôt de lui-même. Ils entrèrent par la barrière d'enfer. Le faubourg était sale et infect. Les malades qu'on portait à l'hôpital passaient sur des civières. Des enfants à demi nus jouaient dans la fange avec les chiens, les vaches et les porcs. Le front de Gilbert se rembrunissait. « Vous trouvez tout cela hideux, n'est-ce pas ? » dit le vieillard. « Eh bien, ce spectacle, vous ne le verrez même plus tout à l'heure. C'est encore une richesse qu'un porc ou qu'une vache. C'est encore une joie qu'un enfant. Quant à la fange, vous la trouverez, elle, toujours et partout. » Gilbert n'était pas mal disposé à voir Paris sous un jour sombre. Il accepta donc le tableau tel que son compagnon le lui faisait. Quant à ce dernier, prolixe d'abord dans sa déclamation, il était devenu peu à peu, et à mesure qu'il avançait vers le centre de la ville, silencieux et muet. Il paraissait si soucieux que Gilbert n'osa point lui demander quel était ce jardin qu'on apercevait à travers la grille, quel était ce pont sur lequel on passait la Seine. Ce jardin, c'était le Luxembourg, ce pont, c'était le Pont Neuf. Cependant, comme on marchait toujours et que l'étranger paraissait pousser la rêverie jusqu'à l'inquiétude, Gilbert se hasarda de dire « Logez-vous encore bien loin, monsieur ?»« Nous approchons, » dit l'étranger, que cette question sembla rendre encore plus morose. Ils côtoyèrent rue du Four le magnifique hôtel de Soissons, dont les bâtiments avaient vue et entrée principale sur cette rue, mais dont les jardins splendides s'étendaient sur celles de Hurenelle et des deux Écus. Gilbert passa devant une église qui lui parut fort belle. Il s'arrêta un instant à la regarder. Voilà un beau monument, dit-il. C'est Saint-Eustache, dit le vieillard. Et puis, levant la tête, il est 8 heures, s'écria-t-il. Oh, mon Dieu, venez vite, jeune homme, venez. L'étranger allongea le pas, Gilbert le suivit. À propos, dit l'étranger après quelques instants d'un silence si froid qu'il commençait à inquiéter Gilbert, j'oubliais de vous dire que je suis marié. Ah, fit Gilbert, oui, et que ma femme, en véritable parisienne, va sans doute gronder de ce que nous rentrons tard, et en outre, je dois vous le dire, elle se défie des étrangers. Vous plaît-il que je me retire, monsieur ? Dit Gilbert, dont cette parole glaça tout à coup l'expansion. Non pas, non pas, mon ami, je vous ai invité à venir chez moi, venez. Je vous suis, dit Gilbert. Là, à droite, par ici, nous y sommes. Gilbert leva les yeux et, au dernier rayon du jour mourant, il lut à l'angle de la place au-dessus de la boutique d'un épicier ces mots « rue Plastrière ». L'étranger continua d'accélérer sa marche, car plus il se rapprochait de sa maison, plus redoublait cette agitation fébrile que nous avons signalée. Gilbert, qui ne voulait pas le perdre de vue, se heurtait à chaque seconde, soit aux passants, soit aux fardeaux des colporteurs, soit aux timons des voitures et aux brancards des charrettes. Son conducteur semblait l'avoir oublié complètement. Il trottait menu, visiblement absorbé dans une idée fâcheuse. Enfin, il s'arrêta devant la porte d'allée dont la partie supérieure était grillée. Un petit cordonnet sortait par un trou, le vieillard tira le cordonnet, la porte s'ouvrit. Il se retourna alors et voyant Gilbert indécis sur le seuil, « Venez vite, » dit-il, et il referma la porte sur eux. Au bout de quelques pas faits dans l'obscurité, Gilbert heurta la première marche d'un escalier roide et noir. Le vieillard, habitué aux localités, avait déjà franchi une douzaine de degrés. Gilbert le rejoignit, monta tant qu'il monta, s'arrêta tant qu'il s'arrêta. C'était sur un paillasson usé par le frottement, sur un palier percé de 2 portes. L'étranger tira un pied de biche suspendu à un cordon de rideau et une aigre sonnette retentit dans l'intérieur d'une chambre. Alors le pas traînard d'un personnage en savate traîna sur le carreau et la porte s'ouvrit. Une femme de 50 à 55 ans parut sur le seuil. 2 voix se mêlèrent soudain, l'une était celle de l'étranger, l'autre était celle de cette femme qui venait d'ouvrir la porte. L'une de ces 2 voix disait timidement « Est-ce qu'il est trop tard, bonne Thérèse ?» L'autre grommelait « Vous nous faites souper à une belle heure, Jacques !» « Allons, allons, nous allons réparer tout cela, » répondit affectueusement l'étranger en fermant la porte et en prenant des mains de Gilbert la boîte de fer blanc. « Bon, un commissionnaire !» s'écria la vieille. « Il ne manquait plus que cela. Ainsi donc, voilà que vous ne pouvez plus porter vous-même tous vos embarras d'herbage. Un commissaire à Monsieur Jacques. Excusez, Monsieur Jacques devient grand seigneur. » « Allons, allons !» répondit celui qu'on interpellait si rudement sous le nom de Jacques, en rangeant patiemment ses plantes sur la cheminée. « Allons, un peu de calme, Thérèse. Payez-le au moins et renvoyez-le, que nous n'ayons pas d'espions ici !» Gilbert devint pâle comme la mort et bondit vers la porte. Jacques l'arrêta. « Monsieur, dit-il avec une certaine fermeté, n'est pas un commissionnaire, et encore moins un espion, c'est un hôte que j'amène. » Les bras de la vieille retombèrent le long de ses hanches. « Un hôte, dit-elle, il ne nous manquait plus que cela !»« Voyons, Thérèse, reprit l'étranger, d'une voix encore affectueuse, mais dans laquelle la nuance de la volonté se faisait sentir de plus en plus. « Allumez une chandelle, j'ai chaud et nous avons soif !» La vieille fit entendre un murmure qui, assez élevé d'abord, alla en décroissant. Puis elle atteignit un briquet qu'elle bâtit au-dessus d'une boîte remplie d'amadou. Les étincelles jaillirent aussitôt et embrasèrent toute la boîte. Pendant le temps qu'avait duré le dialogue, pendant les murmures et le silence qui avaient suivi, Gilbert était resté immobile, muet et comme cloué à deux pas de cette porte qu'il commençait à regretter bien sincèrement d'avoir franchie. Jacques s'aperçut de ce que souffrait le jeune homme. « Avancez, monsieur Gilbert, je vous en prie, dit-il. » La vieille, pour voir celui à qui son mari parlait avec cette politesse affectée, détourna sa jaune et morose figure. Gilbert la vit au premier rayon de la maigre chandelle réveillée dans sa gaine de cuivre. Cette figure ridée, couperosée et comme infiltrée en quelques endroits de fiel, ce visage aux yeux plus vifs que vivants, plus lubriques que vifs, cette plate douceur répandue sur des traits vulgaires, douceur que démentaient si bien la voix et l'accueil de la vieille, inspirèrent du premier coup à Gilbert une violente antipathie. De son côté, la vieille fut loin de trouver de son goût le visage pâle et fin, le silence circonspect et la roideur du jeune homme. « Je crois bien que vous avez chaud et que vous devez avoir soif, messieurs, dit-elle. En effet, passer sa journée à l'ombre des bois, c'est si fatigant. Puis se baisser de temps en temps pour cueillir une herbe, voilà un travail. Car monsieur herborise aussi, sans doute, c'est le métier de ceux qui n'en ont pas. » « Monsieur, répondit Jacques d'une voix de plus en plus ferme, est un bon et loyal jeune homme qui m'a fait l'honneur de sa compagnie toute la journée et que, ma bonne Thérèse, je suis sûr, va recevoir comme un ami. »« Il y a de quoi pour deux, grommela Thérèse, et non pour trois. »« Je suis sobre et il l'est aussi, dit Jacques. »« Oui, oui, c'est bon, je connais cette sobriété-là. Je vous déclare qu'il n'y a pas assez de pain à la maison pour la nourrir, votre double sobriété, et que je ne descendrai pas à trois étages pour en chercher. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, le boulanger est fermé. » « Alors, c'est moi qui descendrai, dit Jacques en fronçant le sourcil. Ouvrez-moi la porte, Thérèse. »« Mais je le veux !» c'est bien, dit alors la vieille en grommelant, mais en cédant toutefois au ton absolu auquel son opposition avait graduellement conduit Jacques. Ne suis-je pas là pour faire tous vos caprices? Voyons, on en fera assez de ce qu'il y aura. Venez souper. Asseyez-vous près de moi, dit Jacques à Gilbert en le conduisant près d'une petite table dressée dans la chambre voisine et sur laquelle, à côté de deux couverts, deux serviettes roulées et rattachées, l'une avec un cordon rouge, l'autre avec un cordon blanc, indiquait la place de chacun des maîtres du logis. Cette chambre, exiguë et carrée, était tapissée d'un petit papier bleu pâle à dessin blanc. De grandes cartes de géographie ornaient la muraille. Le reste de l'ameublement se composait de six chaises en bois de merisier à siège de paille, de la table en question et d'un chiffonnier rempli de barres accommodées. Gilbert s'assit. La vieille plaça devant lui une assiette et lui apporta un couvert usé par le service. Puis elle ajouta à ses divers ustensiles un gobelet d'étain soigneusement poli. « Vous ne descendez pas ?» demanda Jacques à sa femme. « C'est inutile, » fit-elle d'un ton bourru qui indiquait la rancune qu'elle conservait à Jacques de la victoire remportée sur elle. « C'est inutile, j'ai retrouvé un demi-pain dans l'armoire. Cela nous fait une livre et demie à peu près. Il faudra qu'on en fasse assez. » Et disant ces mots, elle posa le potage sur la table. Jacques fut servi le premier, puis Gilbert, la vieille, mangea dans la soupière. Tous trois avaient grand appétit. Gilbert, tout intimidé de la discussion d'économie domestique à laquelle il avait donné lieu, mettait aux siens tous les freins imaginables. Cependant, il eut le premier mangé la soupe. La vieille jeta sur son assiette prématurément vide un regard tout courroucé. « Qui est venu aujourd'hui ?» demanda Jacques pour changer les idées de Thérèse. « Oh, fit celle-ci, toute la terre, comme d'habitude. Vous aviez promis à madame de Boufflet ses quatre cahiers, à madame d'Escard ses deux airs, un quatuor avec accompagnement à madame de Penthièvre. Les unes sont venues elles-mêmes, les autres ont envoyé. Mais quoi, monsieur herborisait, comme on ne peut pas s'amuser et travailler en même temps, ces dames se sont passées de musique. » Jacques ne dit pas un mot, au grand étonnement de Gilbert, qui s'attendait à le voir se fâcher. Mais comme il était le seul en jeu cette fois, il ne sourcilla point. À la soupe succéda un petit morceau de bœuf bouilli, servi sur un petit plat de faïence tout rayé par la pointe tranchante des couteaux. Jacques servit Gilbert assez modestement, car il était sous l'œil de Thérèse, puis il prit un morceau à peu près pareil et passa le plat à la ménagère. Celle-ci prit le pain et en donna un morceau à Gilbert. Ce morceau était si exigu que Jacques en rougit. Il attendit que Thérèse eût achevé de le servir, lui, et de se servir elle-même, puis, lui prenant le pain des mains, « C'est vous qui taillerez votre pain vous-même, mon jeune ami, et taillez-le à votre faim, je vous prie. Le pain ne doit être mesuré qu'à ceux qui le perdent. » Un moment après, parurent des haricots assaisonnés au beurre. Hein, « Voyez comme ils sont verts, » dit Jacques, « ce sont de nos conserves, on les mange excellents ici. » Et il passa le plat à Gilbert. « Merci, monsieur, » dit celui-ci, « j'ai bien dîné, je n'ai plus faim. » « Monsieur n'est pas de votre avis sur mes conserves, » dit aigrement Thérèse. « Il aimerait mieux des haricots frais, sans doute, mais ce sont des primeurs au-dessus de notre bourse. »« Non, madame, » dit Gilbert, « je les trouve appétissants, au contraire, et je les aimerais fort, mais je ne mange jamais que d'un plat. »« Et vous ne buvez que de l'eau, » dit Jacques en lui tendant la bouteille. « Toujours, monsieur. » Jacques se versa un doigt de vin pur. « Maintenant, ma femme, dit-il en reposant la bouteille sur la table, vous vous occuperez, je vous prie, de coucher ce jeune homme, il doit être bien là. » Thérèse laissa échapper sa fourchette et fixa ses yeux effarés sur son mari. « Coucher ? Êtes-vous fou ? Vous amenez quelqu'un à coucher ? C'est donc dans votre lit que vous le coucherez ? Mais en vérité, il perd la tête ! Alors vous allez tenir pension désormais. En ce cas, ne comptez plus sur moi. Cherchez une cuisinière et une servante. C'est assez d'être la vôtre sans devenir aussi celle des autres. Thérèse, répondit Jacques d'un ton grave et ferme, Thérèse, je vous prie de m'écouter, cher ami. C'est pour une nuit seulement. Ce jeune homme n'a jamais mis les pieds à Paris. Il y vient sous ma conduite. Je ne veux pas qu'il couche à l'auberge. Je ne le veux pas. Dut-il prendre mon lit, comme vous le dites? Après cette seconde manifestation de sa volonté, le vieillard attendit. Alors Thérèse, qui l'avait regardé avec attention et qui, tandis qu'il parlait, paraissait étudier chaque muscle de son visage, sembla comprendre qu'il n'y avait pas de lutte possible en ce moment et changea de tactique subitement. Elle eût échoué en s'obstinant à combattre contre Gilbert. Elle se mit à combattre pour lui. Il est vrai que c'était un allié bien près de se trahir. « Au fait, dit-elle, puisque ce jeune monsieur vous a accompagné ici, c'est vous qu'il connaissez bien, et mieux vaut qu'il reste chez nous. Je ferai tant bien que mal un lit dans votre cabinet, près des liasses et des papiers. »« Mais non, » dit Jacques vivement, « un cabinet n'est point un endroit où l'on couche, on peut mettre le feu à des papiers. »« Beau malheur, » murmura Thérèse. « Et puis tout haut, dans l'antichambre alors, devant le buffet, non plus. » « Alors je vois que, malgré notre bonne volonté à tous deux, ce sera impossible, car à moins que de prendre votre chambre ou la mienne, il me semble, Thérèse, que vous ne cherchez pas bien. Moi ? Mais sans doute, n'avons-nous point la mansarde ? Le grenier, voulez-vous dire ? Non, ce n'est pas un grenier, c'est un cabinet à peu près mansardé, mais sain, avec une vue sur des jardins magnifiques, ce qui est rare à Paris. » « Oh, qu'importe, monsieur, » dit Gilbert, « fût-ce un grenier, je m'estimerais encore heureux, je vous jure. »« Oh, pas du tout, » dit Thérèse. « Tiens, c'est là que j'étends mon linge. »« Ce monsieur n'y dérangera rien, Thérèse. N'est-ce pas, mon ami, vous veillerez à ce qu'il n'arrive rien au linge de cette bonne ménagère. Nous sommes pauvres et toute perte nous est lourde. »« Oh, soyez tranquille, monsieur. » Jacques se leva et s'approcha de Thérèse. « Je ne veux pas, voyez-vous, cher ami, que ce jeune homme se perde. Paris est un séjour pernicieux. Ici, nous le surveillerons. C'est donc une éducation que vous faites. Il payera donc pension, votre élève ? Non, mais je vous réponds qu'il ne vous coûtera rien. À partir de demain, il se nourrira lui-même. Quant au logement, comme la mansarde nous est à peu près inutile, faisons-lui cette charité. » « Comme tous les paresseux s'entendent, » murmura Thérèse en haussant les épaules. « Monsieur, » dit Gilbert, plus fatigué que son hôte de cette lutte qu'il livrait pied à pied pour une hospitalité qui l'humiliait, « je n'ai jamais gêné personne. Je ne commencerai point par vous qui avez été si bon pour moi. Aussi, permettez que je me retire. J'ai aperçu du côté du pont que nous avons traversé des arbres sous lesquels il y a des bancs. « Je dormirai fort bien, je vous assure, couché sur un de ces bancs. »« Oui, » dit Jacques, « pour que le guet vous arrête comme un vagabond. »« Qui l'est ?» dit tout bas Thérèse en desservant. Venez, venez, jeune homme, dit Jacques, il y a là-haut, autant que je puis m'en souvenir, une bonne paillasse. Cela vaudra toujours mieux qu'un banc, et puisque vous vous contenteriez d'un banc. Oh, monsieur, je n'ai jamais couché que sur des paillasses, dit Gilbert. Puis, revenant sur cette vérité par un petit mensonge, la laine m'échauffe trop, continua-t-il. Jacques sourit. La paille est en effet rafraîchissante, dit-il. Prenez sur la table un bout de chandelle et suivez-moi. Thérèse ne regarda même plus du côté de Jacques. Elle poussa un soupir. Elle était vaincue. Gilbert se leva gravement et suivit son protecteur. En traversant l'antichambre, Gilbert vit une fontaine. Monsieur, dit-il, l'eau est-elle chère à Paris? Non, mon ami, mais fût-elle chère, l'eau et le pain sont deux choses que l'homme n'a pas le droit de refuser à l'homme qui les demande. Oh, c'est qu'à Tavernay, l'eau ne coûtait rien, et le luxe du pauvre, c'est la propreté. Prenez, mon ami, prenez, dit Jacques en indiquant du doigt à Gilbert un grand pot de faïence. Prenez. Et il précéda le jeune homme en s'étonnant de trouver, dans un enfant de cet âge, toute la fermeté du peuple unie à tous les instincts de l'aristocratie.